Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Swad Boukorsa. Dernier volet de notre série consacrée à l'Algérie, un an après le début du Irak, après avoir évoqué lundi le nouveau visage du régime, mardi la situation économique du pays, et puis mercredi la condition des femmes, intéressons-nous ce matin à la diplomatie et à la place de l'Algérie sur l'échiquier géopolitique contemporain. Le grand retour d'Alger, point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
La diplomatie algérienne dans la Nouvelle République aura pour boussole les intérêts de l'Algérie en premier lieu, puis les intérêts des membres de notre communauté partout où elle se trouve. Les membres des corps diplomatiques seront évalués de manière périodique au vu des résultats qu'ils réalisent dans ce domaine. L'État mettra en place au niveau des ambassades et des consulats des institutions juridiques pour prendre la défense immédiate de tout Algérien humilié à l'étranger, à condition que les membres de la communauté algérienne respectent les lois du pays où ils résident. Et je répète mon engagement. L'État prendra en charge, avec des modalités pour activer le rapatriement, les dépouilles des Algériens décédés à l'étranger en soutien de nos enfants de l'émigration pour alléger leurs douleurs et souffrances.
Extrait de l'allocution du nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune, c'était le 19 décembre dernier. Ces dernières semaines, le nouveau gouvernement algérien a fait montre d'un certain activisme sur la scène internationale, depuis le 33e sommet de l'Union africaine jusqu'au sommet d'Alger, réunissant les protagonistes du conflit libyen. Sur ce dernier dossier d'ailleurs, le gouvernement algérien a même orchestré un impressionnant ballet diplomatique pour tenter de reprendre en main le dialogue international. Quels que soient les résultats, encore incertains, de cet activisme, il signe le retour dans l'arène de l'Algérie, passée en quelques décennies de pays phare du mouvement des non-alignés à fantôme géopolitique. Un effacement que beaucoup attribuent à Abdelaziz Bouteflika lui-même, bien sûr, ancien ministre des Affaires étrangères et qui a conservé une mainmise sur l'appareil diplomatique en devenant président. Son affaiblissement physique ayant évidemment empêché le moindre déplacement et excluant de facto le pays de la scène diplomatique. Le régime post-Bouteflika va-t-il pouvoir organiser le retour d'Alger dans le concert des nations? D'ailleurs, quels sont les dossiers qui l'attendent? Peut-on s'attendre à des évolutions avec les relations avec les voisins de la Tunisie au Maroc en passant par la Libye, le Mali, la Mauritanie ou le Niger? Et puis dans quelle mesure aussi ce nouvel activisme diplomatique, il répond aussi peut-être à des objectifs internes alors que le Irak se poursuit aujourd'hui. Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Slimane Zeghidour, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes journaliste, écrivain franco-algérien, éditorialiste à TV5 Monde et vous aviez signé récemment Sors la route à temps, qui est une partie en tout cas de votre histoire. Avec nous également Asni Abidi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également, vous êtes le directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen de l'université de Genève, vous préparez, ça sera à apparaître dans quelques semaines, Algérie grandeur et décadence, et puis c'était en 2018, Moyen-Orient, le temps des incertitudes. Avant d'évoquer la question purement diplomatique, je voudrais vous entendre peut-être sur l'interview qui a été donnée ce matin par le président algérien Tebboune au Figaro. Il aborde un certain nombre d'autres choses, la Libye, on va en parler, mais d'abord d'un point de vue global, il explique en très gros que finalement la plupart des revendications de départ du Irak ont été remplis, c'est-à-dire que Abdelaziz Bouteflika n'a pas brigué un cinquième mandat, il est même parti, les principales figures du régime ne sont plus là, le général Gaid Salah effectivement est décédé aujourd'hui, et que donc il n'y a plus vraiment de raison que l'Irak se poursuive. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, et plus généralement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview? On commence avec vous, Slimane Zeghidour.
D'abord, ce n'est pas tous les jours qu'un chef de l'État algérien réponde à des questions de journalistes, qui plus est des journalistes étrangers, qui plus est des journalistes français. Donc on peut dire que dans le choix éditorial, il y a une volonté de s'adresser au monde à travers la France et donc particulièrement à la France. C'est une mise au point qui marque une volonté très prudente de retour sur la scène géopolitique, après une hibernation de presque 30 ans. Parce que l'hibernation, le début d'éclipse de la diplomatie algérienne a commencé dans les années 91-92, lorsque l'Algérie allait sombrer, s'engluer dans une guerre civile, où donc les problématiques internes, les conflits de l'intérieur ont pris le dessus sur le souci de briller sur la scène international.
Enfin, la fin de la décennie noire et l'arrivée de Bouteflika au pouvoir en 99 a quand même marqué une forme de renouveau. Alors certes, peut-être pas une rupture, mais quand même un renouveau.
Il y a eu un regain de diplomatie qui s'est traduit par un accord entre l'Érythrée et l'Éthiopie en l'an 2000 qui a été signé à Alger. Et c'était un véritable succès diplomatique pour le Bouteflika Frémoulu, qui était revenu sur la scène avec une volonté de replacer l'Algérie au centre de l'échiquier nord-africain.
C'est surtout à partir de 2013, avec l'accident de l'AVC de Bouteflika, que finalement la diplomatie algérienne devient totalement mutique.
Oui, puisque le président a été ministre des Affaires étrangères pendant 13 ans, donc même en tant que chef de l'État, il était resté l'homme des Affaires étrangères. Mmh. Et au moment où il est devenu impotent, eh bien la politique étrangère a sombré avec son état de santé d'une certaine manière.
Hassani Abidi.
Le nouveau président a deux messages derrière cette sortie médiatique. D'abord, le premier, il est d'ordre interne, occuper le paysage à la fois politique et médiatique avec des initiatives importantes. Quand vous avez un président qui dit les revendications du Hirak sont les miennes, et qui lui dit il est finalement pour le dialogue, en quelque sorte, c'est ce que les Algériens demandent depuis une année. Le deuxième message, il est à l'étranger, il veut marquer sa détermination et sa volonté de s'ouvrir sur le monde et aussi de rassurer la communauté internationale. La veille même de cette interview, le chef du gouvernement a reçu une délégation importante du Fonds monétaire international. L'Algérie aujourd'hui dans une situation économique difficile. Il a besoin de rassurer les partenaires internationaux, les bailleurs de fonds, d'abord d'expliquer ce qui se passe en Algérie, qu'il y a en fait une nouvelle gouvernance qui s'occupe des affaires économiques et politiques algériennes, et c'est pourquoi je trouve que cette ouverture, en tout cas sur les médias étrangers, est une excellente chose et une bonne nouvelle pour l'Algérie, une nouvelle comme il le dit.
Mais est-ce que cette ouverture, elle peut vraiment donner lieu, Slimane Zeghidour, à une nouvelle page de la diplomatie algérienne quand on regarde les choses? Regardons par exemple qui est aujourd'hui la figure qui normalement conduit la politique extérieure du pays, à savoir Sabri Boukadoum. C'est le ministre des Affaires étrangères. C'est un homme qui a été nommé à ce poste en avril 2019, c'est-à-dire le jour même de la démission de l'ancien président Bouteflika. Et puis ensuite, il a été reconduit par le nouveau gouvernement d'Abdelaziz Djerad début janvier. Entre-temps, d'ailleurs, il a même assuré le poste de Premier ministre par intérim. Il a commencé sa carrière d'ambassadeur dans les années 80, en Hongrie, à l'ONU, je ne sais plus exactement où, mais c'est vraiment un homme du système. Est-ce que véritablement c'est avec un homme comme celui-ci qu'on peut enclencher un renouveau de la diplomatie algérienne ?
Je ne crois pas que ce soit seulement une question de personne. C'est une question d'outils. Dans cette éclipse, dans cette longue éclipse de la diplomatie algérienne, il y a eu une sorte de déprofessionnalisation. C'est-à-dire dans les critères de nomination, de désignation des ambassadeurs, dans la constitution des équipes, des centres de recherche. La diplomatie algérienne, pendant toute cette période, ça a réduit au minimum ses liens avec les élites, notamment avec les universités, les centres, les think tanks. Tout cela a, d'une certaine manière, disparu. Les anciens diplomates qui ont été formés à l'école du FLN, lorsque le FLN était un mouvement de libération, donc réparti à travers le monde avec des filières, des réseaux, des lobbies pro-algériens, cette génération est partie à la retraite, et la nouvelle génération des diplomates qui arrivent aujourd'hui dans les équipes qui élaborent la politique étrangère n'ont connu que la guerre civile. De ce côté-là, donc, c'est une diplomatie qui revient de loin. Maintenant, est-ce qu'elle va retrouver de la vigueur et redonner du tonus à la présence algérienne dans le monde? Cela, ce sera une question et de moyens et de volonté. Ce qui suppose un minimum de stabilité intérieure.
Alors justement, parce qu'il y a le message au reste du monde, à Hassani Abidi, mais il y a peut-être le message à l'intérieur du pays, et celui-là aussi, il faut le regarder, parce que quand on regarde bien d'ailleurs l'interview de Tebboune, le premier message qui est adressé, il n'est pas adressé à l'extérieur, il est adressé à l'intérieur. Il y a un appel à l'apaisement, il y a effectivement cette idée que finalement le régime actuel aurait répondu aux attentes du Irak et que donc il faut arrêter ce mouvement et laisser désormais ce gouvernement travailler et lui donner sa chance en quelque sorte. Est-ce que finalement cet activisme politique dont on va parler, est-ce qu'il n'est pas d'abord et avant tout un outil ce qu'espère le gouvernement actuel, censé légitimer précisément ce nouveau régime, là aussi je mets des guillemets, vis-à-vis de la population algérienne. Est-ce que ce n'est pas d'abord de la diplomatie intérieure finalement ?
Oui, en sens politique, on parle toujours de ce qu'on appelle une légitimité interne, mais aussi il y a une sorte de légitimité externe. C'est-à-dire, à défaut d'une légitimité interne, certains États font recours à une légitimité par l'acceptabilité internationale. En quelque sorte, un État peut se rendre utile à d'autres États, ou aussi utile dans la gestion de certaines crises régionales et internationales, et du coup, il est adoubé, il est accepté, parce que il contribue dans l'apaisement de certains conflits internationaux.
Mais ça peut marcher dans le contexte actuel ?
Le pouvoir algérien travaille sur deux processus. C'est-à-dire que finalement, il a compris probablement tardivement que le Hirak lui-même est un outil et que c'est un atout formidable aux mains de la diplomatie algérienne pour changer l'image que dégage l'Algérie à l'étranger. Aujourd'hui, on voit que l'Algérie a changé. Il y a un peuple qui manifeste tous les vendredis d'une manière pacifique, d'une manière exemplaire, et qui revendique des droits légitimes, conformément même à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette image-là, le pouvoir peut l'exploiter dans son volontarisme international. Le deuxième élément, c'est que le personnel diplomatique est là, finalement. La diplomatie était paralysée parce que, selon la Constitution, c'est le président de la République qui donne les orientations de la politique étrangère. Sauf qu'on avait un président qui était complètement absent de la scène, qui était un président fantôme. Et c'est pourquoi il y avait cette paralysie. Mais attention, l'Algérie a des diplomates qui sont très importants. Donc je reviens à cette histoire. C'est les diplomates eux-mêmes qui ont demandé à ce que l'Algérie revienne sur la scène internationale et qui peut, finalement, le pouvoir algérien demande aux Algériens de dire, écoutez, si vous voulez vraiment que l'Algérie, puisque vous dites qu'on est humilié, que l'Algérie n'a plus sa voix n'est plus écoutée à l'étranger, mais on a besoin aussi d'une certaine stabilité interne. Et c'est vrai, la diplomatie finalement, ou la politique étrangère, est par nature le miroir de la politique intérieure. Si vous êtes fort à l'intérieur, si vous avez des éléments de force militaire, économique et une cohésion sociale, vous pouvez justement avoir une politique étrangère forte, une politique étrangère aussi respectée par les autres. Et c'est pourquoi il fait appel un petit peu à l'apaisement interne pour consolider en quelque sorte ses nouvelles orientations étrangères.
Sauf que lui, il fait tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que peut-être que son idée, c'est précisément de s'appuyer sur la reconnaissance de la communauté internationale pour se renforcer de l'intérieur. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner, Slimane Zeghidour ? Et puis ensuite, on évoquera le dossier libyen qui est évidemment très important et sur lequel Alger a déployé énormément d'efforts. Mais est-ce que vous pensez que l'actuel gouvernement peut obtenir une légitimité auprès de son opinion en s'appuyant justement sur tous ces efforts qui sont en train de se déployer là sur la scène internationale, sur la scène diplomatique? Vous y croyez, vous?
Comme l'a dit Hassane Abidi, effectivement, le gouvernement, le régime veut faire du Irak son affaire et donc se redonner un surcroît de légitimité en se présentant comme étant l'émanation directe du Irak. D'ailleurs, la presse algérienne annonce aujourd'hui que le président Tebboune a décrété le 22 février, donc début des manifestations du Irak, comme une journée nationale. Ça va devenir une journée officielle nationale. Donc, c'est une véritable récupération complète du mouvement. Maintenant, est-ce que les manifestants vont accepter d'être phagocytés? Ça, ce sera une autre paire de manches.
Maintenant, sous-entendu, vous n'y croyez pas.
C'est pas que je n'y crois pas. J'attends de voir parce que la scène algérienne, c'est-à-dire il n'y a pas d'outils comme les sondages, par exemple, les travaux sur l'opinion. Il n'y a pas assez de travail de sociologie sur la société algérienne pour savoir vraiment quelles sont les forces qui la travaillent, les mouvances. Tout cela, donc, nous sommes réduits à spéculer et je n'ai pas trop envie de spéculer. Ce que je peux dire, c'est que pour qu'une diplomatie, c'est d'abord une idée de la diplomatie, de savoir qu'est-ce qu'on pèse sur le plan démographique, politique, financier, militaire, et qu'est-ce qu'on veut. Or, le gouvernement algérien, les gouvernements algériens depuis 1962 continuent de se comporter plus comme un mouvement de libération que comme un État. C'est-à-dire l'opacité, le flou, et donc une partie de d'improvisation et de bricolage. Je veux dire par là, concrètement, je ne sais pas si Hosni Abidi pense la même chose ou pas, il n'y a jamais eu de doctrine affichée de doctrine de la sécurité nationale selon Alger. Il n'y a jamais eu de livre blanc, par exemple, pour savoir quelles sont les priorités stratégiques du pays. Il n'y a pas une pensée stratégique qui donne à peu près les idées de l'architecture de la façon dont l'Algérie se situe dans le monde. Il n'y a pas de think tanks qui publient des revues, des réflexions sur la vision du monde et la doctrine diplomatique. Donc tout cela, on ne le sait pas. On ne sait pas s'il y a une école, une vision, des priorités. Et donc tout cela, on attend de voir venir. Et c'est pour ça que je dis que c'est une diplomatie qui revient de loin et que tout dépend de la volonté et des moyens.
Alors peut-être qu'on reviendra justement sur cette question d'absence de stratégie, d'absence de politique de défense.
De vision du monde académiquement construite et affichée pour que les amis comme les adversaires possibles de l'Algérie sachent à quoi s'en tenir.
Alors on y reviendra. Peut-être abordons le dossier chaud, si je puis dire, de l'Algérie aujourd'hui, c'est la Libye quand même. Quasiment 1000 kilomètres de frontières communes. Alger a reçu un certain nombre d'acteurs, de protagonistes de ce conflit en Libye, qui, je le rappelle, oppose toujours le Premier ministre du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, à l'homme fort de l'Est du pays, le maréchal Haftar. Le président Tebboune disait ce matin dans le Figaro qu'il considérait que les Algériens pouvaient apporter quelque chose justement au règlement de ce conflit, qu'ils étaient le bon médiateur, que par ailleurs, ils étaient neutres dans ce conflit. C'est en tout cas ce qu'il dit. Peut-être qu'on reviendra justement sur cette neutralité. Mais est-ce que vous pensez, Hosni Abidi, que, effectivement, l'arrivée de l'Algérie dans ce dossier diplomatique sur lequel, à peu près, tout le monde, jusqu'ici, s'est cassé les dents? Ça n'a rien donné jusqu'ici. Est-ce que vous pensez que l'Algérie peut changer quelque chose?
Il faut rappeler que l'assaut lancé par le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, en avril 2019, a constitué un électrochoc pour la diplomatie algérienne. Et d'ailleurs, le pouvoir, et notamment l'ancien chef d'état-major et l'ancien homme fort, le général-major Gaïd Salah, évoquaient cette question que l'Algérie était victime, en tout cas, d'une tentative de déstabilisation via ses frontières. C'est-à-dire, pourquoi finalement un assaut militaire dans un pays proche de l'Algérie, alors que l'Algérie était secouée par des problèmes internes, c'est-à-dire les manifestations et les revendications populaires. Et je crois que la question libyenne a été aussi le moteur de ce changement, de ce réveil diplomatique. Vous savez, un diplomate, c'est comme un chirurgien. S'il ne pratique pas, il n'est pas bon. Et c'est pourquoi les Algériens, pendant 20 ans, les diplomates n'ont pas pratiqué, n'ont pas été, en tout cas, mêlés à des médiations, des opérations diplomatiques. Et la question libyenne, d'abord, l'Algérie était parmi les premiers États à lancer un chantier très important, c'est celui des médiations. Je connais ce dossier parce que je l'ai suivi, je l'ai accompagné. C'est en fait faire une médiation entre les Libyens eux-mêmes. L'Algérie était le premier pays, avec quelques pays et États africains, à s'opposer à la résolution du Conseil de sécurité et à l'attaque, enfin je veux dire, ou à la frappe, les frappes occidentales, la coalition contre le régime libyen. Évidemment, l'Algérie a encaissé. Elle s'est lancée dans ce débat après, entre les tribus libyennes, et d'une manière, je pense, qui n'est pas du tout polie, c'est plutôt le Maroc qui a raflé cet accord de Sri Taraba. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Bernardo Leon, voulait absolument signer l'accord de Sri Lanka, alors que Alger avait des réserves, avait des doutes un peu bien justifiés sur la viabilité, la pertinence même de cet accord, sans avoir l'accord de toutes les parties libyennes. Aujourd'hui, elle se trouve dans une situation de victime de ce qui se passe en Libye, face évidemment à l'échec de toutes les tentatives diplomatiques, parce que l'Algérie reste tout de même fidèle à sa même pensée, pas d'intervention étrangère, respect de la légalité du fait, et pas d'intervention aussi militaire en dehors de ses frontières, et c'est pourquoi elle veut en tout cas proposer une approche différente. Elle a tous les outils, elle a tous les atouts, je dis bien tout, pour vraiment faire la différence avec les précédentes expériences, sauf que l'interview de M. Thébaune est très importante. À la fin, il dit « Nous voulons faire quelque chose et nous pouvons, mais d'autres forces ne l'empêchent. »
Alors justement, je voulais y venir. Vous me tendez la perche, Slimane Zeghidour. Effectivement, M. Thébaune dit dans l'interview qu'il y a d'autres pays qui ne souhaitent pas finalement que l'Algérie se pose en médiateur. Est-ce qu'on a une idée de qui est ciblé derrière cette attaque? Et puis, est-ce que vous croyez, Slimane Zeghidour, à la fois que l'Algérie est en capacité, Alger est en capacité peut-être de trouver une solution politique interne, ce qui est déjà absolument considérable, mais aussi à peser sur un certain nombre de pays qui aujourd'hui se sont largement introduits et utilisent le conflit libyen comme territoire sur lequel on se fait la guerre par procuration, que ce soit la Turquie, les Émirats Arabes Unis, la Russie, la France, l'Égypte, et je dois en oublier encore. Slimane Zeghidour.
La différence entre l'Algérie, la diplomatie algérienne et les autres acteurs qui sont impliqués dans la crise libyenne, les Émiriens, les Égyptiens, les Turcs, c'est que toutes ces puissances ont des relais dans la population libyenne. Les Émirats et l'Égypte s'appuient sur Haftar. Les Russes soutiennent Haftar. Les Turcs et les Qatariens soutiennent le gouvernement de Tripoli. L'Algérie, justement, c'est ce jeu-là que l'Algérie refuse. C'est-à-dire de jouer des Libyens contre d'autres Libyens pour imposer une solution avec un gagnant et un perdant. Donc elle veut rester comme la voie qui propose aux deux protagonistes de se retrouver notamment en Algérie ou sous l'égide de l'Algérie pour régler leurs différends à l'amiable. Or,
c'est une vraie neutralité de l'Algérie vis-à-vis du conflit libyen.
C'est une technique. Mmh. C'est la seule technique qu'elle peut jouer. L'Algérie n'a aucune puissance, ni financière, ni économique, ni militaire, ni idéologique pour peser sur le jeu libyen. Et les protagonistes libyens, au fond, chacun croit à une solution militaire. Donc les Libyens entre eux ne sont pas d'accord. Et d'autre part, ce sont des protagonistes trop faibles pour pouvoir s'affranchir de leurs sponsors. Mais dans le cas libyen, particulièrement par rapport à l'Algérie, c'est qu'Haftar est l'homme de l'Est libyen. Mais les 1000 kilomètres de frontière algérienne avec la Libye sont l'autorité...
tenus par les hommes d'Haftar.
D'Haftar, ouais. Exactement. Or, il faut savoir que la frontière entre l'Algérie et la Libye a été dessinée par l'Italie fasciste et la France coloniale. Et que les Libyens, jusqu'à maintenant, réclament 30 000 kilomètres carrés, c'est-à-dire trois fois le Liban, à l'intérieur des frontières algériennes. Donc il y a un litige. Bon, la frontière est bornée et elle est reconnue sur le plan international, il n'y a pas de doute. Mais les Libyens, y compris à l'époque de Kadhafi, ont toujours contesté cette frontière, d'où aussi les craintes de l'Algérie que cette frontière, non pas qu'on vienne lui arracher, lui ponctionner son territoire, ça, la Libye n'a pas les moyens de se frotter à ce défi. Néanmoins, pour l'Algérie, c'est une frontière très fragile, même si elle est verrouillée militairement. Elle est fragile parce qu'elle est très peu peuplée du côté algérien et que ça reste donc un vrai souci géostratégique.
Alors justement, Hassani Abidi, à propos de cette frontière, en 2018, le maréchal Haftar avait reproché à l'Algérie d'avoir pénétré le territoire libyen après une visite du ministre des Affaires étrangères dans les villes du sud justement de la Libye, alors qu'il n'y avait pas été invité. Et le maréchal Haftar avait vu ça comme un acte d'ingérence. Je cite ce qu'il avait dit. « Les Algériens ont profité de la guerre pour pénétrer sur le territoire libyen. J'ai envoyé le général Abdelkrim à Alger pour leur dire que ce qui s'est passé n'est pas fraternel. » Et il avait même menacé en expliquant qu'il pouvait facilement déplacer la guerre en Algérie en quelques instants. Alors, quel est le risque aujourd'hui pour l'Algérie de voir une propagation du conflit libyen sur son propre territoire ?
Vous avez parlé de neutralité. Dans le jargon diplomatique, on parle de neutralité positive et neutralité négative. C'est-à-dire, vous êtes neutre, mais en fait, votre neutralité ne vous empêche pas d'avoir votre opinion et d'avoir une action sur le terrain. Je pense à ce que c'est de faire l'Algérie. La déclaration...
En soutenant
Ben, en soutenant d'autres partis qui traversent les deux tendances principales, à la fois le gouvernement de l'Ouest et le gouvernement de l'Est. C'est-à-dire, disons, travailler sur plutôt les composantes sociales. Aujourd'hui, le point focal de l'Algérie, c'est plutôt les tribus. Ce qu'on appelle les notables. Les appartenances, en quelque sorte, tribales. Vous avez des appartenances régionales, vous avez des appartenances tribales. Mais ce qui est compliqué maintenant aujourd'hui en Libye, c'est la militarisation un peu de ce conflit. Et ça, c'est un danger énorme. Si on arrive à ce stade-là, que même les milices prennent des armes, je pense que l'intégrité territoriale de la Libye sera en jeu. Et l'intérêt de l'Algérie, c'est d'avoir des relations avec tout le monde. Vous savez que quand Alger invite le maréchal Haftar, ou quand le ministre des Affaires étrangères Bougadoum se déplace jusqu'à Benghazi, et finalement reçu par M. Haftar, c'est beaucoup de choses symboliquement, parce qu'en fait, il reçoit un homme militaire qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Seul le gouvernement de l'Ouest est reconnu par la communauté internationale. Il est reçu ou il discute avec un homme militaire, avec un maréchal de l'armée, désigné par un parlement dont le mandat a expiré. Et donc tout ça, c'est Alger pour dire qu'écoutez, même si je ne vous reconnais pas, mais je discute avec vous parce que vous êtes deux parties importantes. Cet incident fâcheux, cette déclaration fâcheuse de Bachar Haftar a été évidemment oublié. Parce qu'on oublie souvent que l'Algérie a des installations pétrolières et gazières très importantes dans la partie sud de ses frontières avec la Libye. Évidemment, quand on parle des installations pétrolières et gazières, ça veut dire que ça nécessite une présence sécuritaire et militaire importante aussi. Et je pense que, après les explications d'Alger, le maréchal Haftar avait oublier cette page, je pense que les deux parties n'ont pas intérêt à entrer dans un conflit ouvert.
Vous mentionniez la question des installations gazières. Il faut se souvenir qu'en 2013, il y a un site gazier qui est attaqué près de d'Inamenas par un groupe djihadiste venu justement de Libye, souvenez-vous.
En arrivant, ils ont dit « personne ne bouge ». On n'a pas bougé, on avait trop peur. Mais après, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, nous sommes musulmans comme vous.
Ils ont attaqué la base de vie et l'usine. Ils étaient deux groupes. Leur objectif, c'était le personnel étranger.
Ils ont exécuté 5 personnes. C'est-à-dire, c'est des personnes qu'on a, dont les cadavres, on les a conduits par la suite. Quand on a été sauvés, moi j'étais resté 48 heures dans ma chambre.
Voilà, bilan officiel du point de vue des autorités algériennes, 37 otages et 29 terroristes tués. C'est un événement qui avait beaucoup marqué les esprits du côté de l'Algérie, Slimane Zeghidour, ce qui va pouvoir nous permettre aussi de glisser doucement vers le Sahel et en restant sur cette question sécuritaire, parce que là où il y a toujours évidemment aussi un problème, c'est dans cette région saharo-sahélienne, avec des Français qui, avec l'opération Barkhane ou même des pays du G5 Sahel, c'est-à-dire le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, qui sont incapables les uns et les autres de garantir la sécurité. Pire, puisque les groupes armés, au fond, ne cessent d'avancer. Il y a des pays où il n'y avait absolument pas de groupes armés et d'actes terroristes ces dernières années, je pense au Burkina Faso, et où là, ça avance, le front avance... au nord du Cameroun. Où là, le front avance dangereusement. Slimane Zeghidour, pour l'Algérie, est-ce qu'il y a là une opportunité pour essayer de proposer là aussi ses services?
Elle propose ses services. À propos du Mali, il y a eu des accords à Alger. L'Algérie a voulu constituer et faire d'Alger une espèce de hub antiterroriste avec les pays de la région. Il y a eu des conférences internationales, mais tout cela a été à peu près sans lendemain. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la diplomatie doit procéder d'une doctrine et de la sécurité nationale et d'une politique avec l'environnement immédiat. Dans les années 70, la doctrine n'avait pas besoin d'être rendue publique. L'Algérie était dans les non-alignés, mais en même temps elle était adossée au bloc soviétique et elle avait une rhétorique anti-impérialiste. Donc elle soutenait tous les mouvements de libération dans l'Afrique et soutenait les gouvernements progressistes comme celui, par exemple, de Modibo Keïta au Mali à l'époque. Maintenant, la situation a complètement changé. C'est qu'il n'y a plus les deux blocs, donc l'Algérie est dans une véritable solitude géostratégique. L'Algérie, si on regarde sur une carte, n'a pas d'alliés fidèles sur laquelle elle peut s'appuyer ou avec lequel elle travaille en duo. La Russie n'est plus l'allié de l'Algérie. C'est le premier fournisseur d'armes à l'Algérie, mais il n'y a plus la coordination qu'il pouvait y avoir avant. Donc l'Algérie est dans une véritable solitude. Et donc elle doit, si elle veut retrouver ce que sa taille et sa position l'autorise légitimement à jouer comme rôle, elle doit se définir des priorités. Or, mentalement, psychologiquement, les Algériens regardent vers le nord, ils vivent le dos tourné à l'Afrique. Pensez que 86% de la population algérienne s'agglutine sur 14% du littoral algérien. Alors que le pays, la distance entre le nord et le sud de l'Algérie est plus que Paris-Alger.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, le Sahel n'intéresse pas l'Algérie.
Ce n'est pas qu'il ne l'intéresse pas. C'est qu'anthropologiquement et psychologiquement,
ils sont pas
l'Algérie
tournés
n'a pas,
vers cet espace-là.
Ne s'est pas retourné vers son interland africain. Mmh. C'est seulement depuis quelques semaines, depuis le nouveau gouvernement, qu'ils découvrent l'Amérique, c'est-à-dire que leur destin, maintenant ils disent cette formule, le destin de l'Algérie, c'est le Sahel et c'est l'Afrique.
Ouais, rappelons qu'il y a un programme de valorisation du Sud qui a été présenté par le gouvernement. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans.
Oui,
mais
et la création d'une agence de coopération
et développement.
Pour développer une sorte de soft power algérien dans les pays environnants du Sahel.
Hasni Abidi, est-ce que l'Algérie peut apporter son concours pour sécuriser le Sahel?
Ce n'est pas que l'Algérie ne s'intéressait pas au Sahel, elle ne s'intéressait à aucune région géographique pendant 20 ans, tout simplement parce que la politique étrangère était aux mains du président qui était absent et de son entourage. Aucun ministre des Affaires étrangères n'avait, et ça c'est le témoignage de son ancien chef de cabinet, M. Benflis, disait que je n'ai pas le pouvoir de nommer un secrétaire à la présidence ni au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est difficile d'avoir une politique étrangère ambitieuse quand la prise de décision est monopolée par un chef d'État qui est complètement absent et qui ne veut pas que d'autres s'en occupent. Mmh. C'est le premier élément. Aujourd'hui, les choses ont changé parce que l'Algérie découvre que sa véritable profondeur, ce n'est pas l'Europe, mais plutôt l'Afrique. L'Algérie a 7 frontières terrestres avec 7 États africains. Vous rajoutez la Méditerranée, vous avez 8 frontières. C'est énorme pour un pays. Donc,
ça fait 6000 kilomètres à peu près.
Absolument. C'est un pays énorme de toute façon.
7 pays déjà. Donc
un pays immense.
Et, voilà. Et quand vous avez le Niger et le Mali, c'est quand même c'est un fardeau sécuritaire. L'Algérie déploie des dizaines de milliers de soldats tout au long des frontières avec la Tunisie pour sécuriser la Tunisie. Beaucoup de mes amis tunisiens me disent que la transition démocratique, elle tient grâce au soutien en quelque sorte indirect de l'Algérie, à la fois sur le plan économique avec ce 1 million de touristes algériens qui traversent la frontière, et avec ces soldats qui sécurisent les frontières. Donc l'Algérie peut jouer un rôle, malgré les divergences de fond entre Alger et Paris, sur la manière dont il faut gérer le dossier malien. Alger a ouvert l'espace aérien malgré des résistances au sein même du pouvoir militaire algérien. Et il faut rappeler que Alger a contribué dans ce qu'on appelle l'accord de Mali. Je pense que le règlement de cette question de Sahel sans Alger est très difficile.
Alors justement, là aussi vous me proposer une transition parfaite, Slimane Zeghidour. Il y a un dossier qu'on n'a pas encore ouvert. Je voudrais qu'on prenne quelques minutes avant d'accueillir un nouvel invité par téléphone, mais c'est évidemment les relations franco-algériennes ou algéro-françaises. Jean-Yves Le Drian est allé à Alger. Il a souhaité la réussite du nouveau gouvernement. Il a dit son désir de relancer la coopération. Je vais vous donner un très court extrait de ce qu'il a dit durant sa visite. Nous partageons la volonté de réengager nos échanges au plus haut niveau en 2020 afin de lancer la nouvelle dynamique que tu viens d'évoquer lors du calendrier que nous avons validé ensemble. Donc accessoirement, on voit qu'on se connaît très bien de part et d'autre. Et effectivement, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Jusqu'où est-ce qu'il faut s'attendre effectivement à un renouveau dans les relations franco-algériennes et en quoi est-ce que précisément la question du Sahel pourrait poser un problème justement dans tout cela, Slimane Zeghidour?
Alors, les relations franco-algériennes sont un véritable cas d'école. Parce que on a l'impression que ce sont beaucoup plus des relations de peuple à peuple ou de réseau d'affaires notamment, de réseau à réseau, mais pas encore des relations d'État à État. Tout ça pour des raisons historiques. L'État algérien est sorti du ventre de la France. Bref, c'est très complexe. Autre chose, je pense que quand il y a eu l'indépendance de l'Algérie, aussi bien le leadership français que le leadership algérien ont estimé qu'après ce divorce, chacun allait rentrer chez soi, sécher ses larmes et commencer à refaire sa vie sans l'autre. Le problème, c'est que l'histoire a réagi autrement, en ce sens que, pensez qu'en 1962, il y avait 400 000 Algériens en France. En 68, il y en avait déjà 800 000. Aujourd'hui, en France, il y a plus de descendants d'Algériens en France qu'il n'y avait d'Algériens en 1830 dans toute l'Algérie. Il y a plus d'Algériens dans la seule agglomération marseillaise que d'Algériens dans les 22 capitales arabes réunies. Le nombre d'Algériens ou de descendants d'Algériens mariés à des conjoints français est supérieur au nombre des Algériens ayant contracté des mariages avec des citoyens du reste du monde. Ce qui veut dire que démographiquement parlant, presque 10%, l'équivalent de 10% de la population algérienne vit en France. Par ailleurs, à peu près le premier pays réellement francophone en dehors de la France, c'est l'Algérie.
Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup, Slimane, sur ce que pourraient être demain les relations entre... Est-ce que le nouveau régime, je mets une fois encore des guillemets, oui, en tout cas le renouvellement des cadres du régime, peut enclencher une nouvelle dynamique dans ces relations? Vous y croyez, vous?
En principe, la démographie, je dirais même la démographie cyniquement, devrait obliger ces deux États à agir en duo sur le bassin méditerranéen.
Ça, c'est pour le principe.
Et dans le Sahel, sur le principe. Néanmoins, il y a trop de réseaux qui polluent. Par exemple, il y a des revanchards des deux côtés qui jouent de la carte de la guerre d'indépendance d'un côté et de l'autre pour continuer encore à polluer et à empêcher ces relations d'être des relations dignes de deux États modernes.
Asni Abidi, en quelques mots, s'il vous plaît, pour qu'on puisse accueillir notre nouvel invité par téléphone.
En quelques mots, il faut miser sur le nouveau personnel de deux côtés. Tebboune l'a dit, je fais confiance à l'honnêteté intellectuelle du nouveau président français. Donc on comprend bien, il a bien précisé l'honnêteté intellectuelle du président. Nous avons un nouveau personnel de l'autre côté de la Méditerranée, à Alger, un chef de gouvernement qui, pour la première fois, je le dis bien, de l'histoire de l'Algérie, un chef de gouvernement qui est beaucoup plus puissant que le président lui-même. Il a le soutien de l'armée. C'est un chef de gouvernement qui connaît très bien la France parce qu'il a fait ses études ici, un professeur de relations internationales. Il a un lien d'ailleurs avec l'appareil diplomatique. Et je pense que d'avoir deux générations qui sont au pouvoir aujourd'hui en France et en Algérie pourrait donner une autre dimension aux relations franco-algériennes.
Alors la diplomatie algérienne, il fut un temps où elle était extrêmement rayonnante et on va revenir justement sur cette décennie historique, celle durant laquelle Alger est devenue la Mecque des révolutionnaires.
Le problème du colonialisme, de l'impérialisme qui pèse sur un pays oblige à ce pays à prendre des mesures pour lutter pour sa liberté.
Voilà, la voix qu'on vient d'entendre, c'est celle de Che Guevara, tout simplement, qui est à Alger, parce que de 62 à 74, l'Algérie va accueillir et subventionner des mouvements révolutionnaires du monde entier, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pour ça que Che Guevara, les Black Panthers, Martin Luther King, tout ce petit monde va passer à Alger. On va essayer de comprendre comment est-ce que, justement, s'illustrait ce soutien de l'Algérie à ces mouvements. Pour ce faire, on reçoit Benjamin Stora. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes historien et vous avez participé, vous avez été conseiller historique sur le documentaire dont on vient d'entendre un extrait, Alger, la Mecque des révolutionnaires. Alors, en quelques mots, Benjamin Stora, sous l'impulsion du président de l'Algérie fraîchement indépendante, Ben Bella, Alger va devenir en quelques mois le lieu où viennent tous les représentants quasiment des mouvements de libération de l'ensemble du continent et même plus loin. Un bureau est ouvert de l'ANC avec Nelson Mandela, des représentants du Mozambique, de l'Angola, du Cap-Vert, etc., etc. Est-ce que c'est seulement, Benjamin Stora, une certaine proximité idéologique avec ces mouvements qui explique tout ça, ou il y a aussi une visée interne?
Oh ben les deux, hein. Vous savez, c'est un ensemble, disons, qu'on peut comprendre à la lumière de l'effervescence idéologique qui régnait dans les années 60 dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et le tiers-mondisme politique était une idéologie extrêmement puissante, c'est-à-dire qu'à la faveur de la décolonisation, il fallait trouver une voie politique intermédiaire entre l'impérialisme et le socialisme bureaucratique. Donc c'était trouver cette solution médiane à travers et en s'appuyant sur les mouvements nationalistes, les mouvements anticolonialistes qui émergeaient un petit peu partout dans le monde. Et Alger, après l'indépendance de l'Algérie, est devenu ce point de ralliement portant d'une série de mouvements, de groupes, d'organisations. Il faut citer aussi l'OLP, bien sûr, qui avait son bureau à Alger. Et il faut pas oublier, par exemple, la phrase célèbre d'Amilcar Cabral, qui était un des héros du combat anticolonial en Guinée-Bissau, et qui, lors d'une conférence de presse à Alger, en 1968, expliquait « Les musulmans vont en pèlerinage à la Mecque, les chrétiens au Vatican et les mouvements de libération nationale à Alger. »
Alors, il y a justement une chose qui est très frappante dans ce documentaire qu'on voit au début, Benjamin Stora, c'est vrai que moi, j'avais oublié ce soutien très fort des États-Unis, parce que dès 1962, John Fitzgerald Kennedy va reconnaître depuis le bureau ovale l'indépendance de l'Algérie. Et Ben Bella va même faire un voyage aux États-Unis pour l'entrée officielle de l'Algérie aux Nations Unies. Et le président américain le reçoit à la Maison-Blanche. Alors même qu'effectivement, Alger est en train de devenir la Mecque des révolutionnaires. Que Ben Bella est sur le point d'aller à la Havane qui est sous blocus américain. Comment comprendre ce soutien quand même très fort de l'administration américaine à l'époque?
On retrouve à peu près la même situation, bien sûr sans faire de comparatisme historique facile, mais par exemple au Vietnam, en Indochine dans les années 43-45, lorsque les Américains avaient soutenu Ho Chi Minh, contre les Français, contre le colonialisme français, eh bien on retrouve à peu près le même type de démarche dans les années 60-62, jusqu'en 63, pas plus, où effectivement, à la faveur de la décolonisation française, les Américains vont essayer, disons, d'approcher ces mouvements de libération nationale et de pouvoir, disons, lutter avec eux contre l'influence soviétique. Parce que ce qui domine à l'époque la scène mondiale, c'est la rivalité Est-Ouest. Mmh. C'est la question de la bataille, disons, entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et à ce titre-là, bien sûr, il faut se gagner les faveurs des mouvements révolutionnaires du tiers-monde. Mais il faut bien sûr dire tout de suite que cette lune de miel avec les États-Unis va être de courte durée, bien sûr, puisque très vite, dès 1963, on a effectivement une Algérie très socialiste, révolutionnaire et tiers-mondiste qui va accueillir Che Guevara. Donc alors là, évidemment, on n'est plus du tout dans la même dynamique.
Oui, parce que quelques heures après avoir rencontré JFK, effectivement, Ben Bella, on le voit attablé avec Fidel Castro, avec Che Guevara à la Havane. Et là, on voit très bien, c'est très clair dans les images, que le contact passe très bien, à tel point qu'effectivement, ils vont se retrouver du côté de la Havane. Mais là aussi, au fond, le combat de ces hommes-là, et en particulier de Che Guevara, pour soutenir les mouvements révolutionnaires de la région et notamment du côté du Congo, ça va pas être une franche réussite.
Non, c'est pas effectivement quelque chose qui va réussir, notamment pour Che Guevara, qui va essayer de monter, comme on le sait, des maquis en Afrique et qui échoueront. Il va se retrouver extrêmement isolé et même désavoué par Fidel Castro. Son isolement politique sera absolument terrible. On connaît sa fin tragique en 1967, donc de cet isolement et de ce non-soulèvement, des paysans en particulier, qui étaient érigés en facteur central, en matrice, sociale principale des mouvements de libération à l'époque, et qui n'a plus fonctionné quelque part après, dans les années 60. Et les révolutionnaires, les avant-gardes révolutionnaires marxistes se sont retrouvés isolés, notamment en Afrique et aussi plus tard en Amérique latine, lorsqu'il s'est agi de s'affronter, au pouvoir d'État de l'époque.
1967 aussi, c'est au mois de juin, ce moment où Israël attaque ses voisins avec cette attaque préventive, je mets des guillemets, qui annexe un certain nombre de territoires. Et là, sur le plan diplomatique, c'est aussi un moment important pour l'Algérie parce que ça marque la rupture officielle avec les États-Unis. C'est un tournant diplomatique quand même.
Ah, c'est un grand tournant diplomatique pour l'Algérie qui va complètement, bien sûr, s'aligner sur la position de Nasser. Nasser avait été accueilli en héros en Algérie, aussi après l'indépendance, bien entendu. Et donc, il y aura effectivement l'Algérie qui va se situer sur la ligne de front la plus radicale par rapport, à l'État d'Israël et aux États-Unis, bien sûr, en soutenant l'OLP jusque dans les années 80-90. N'oublions pas que c'est à Alger, notamment, plus tard.
Benjamin Stora, ça y est, on vous a retrouvé. Je vous en prie, allez-y.
Ah, pardon.
C'est à ce moment-là, disiez-vous?
C'est à la fin des années 1980 que Alger va accueillir à nouveau, disons, le Congrès national de l'OLP, qui va définir une charte nouvelle.
1988.
Voilà. Encore un mot, peut-être, pour introduire une autre rupture. C'est que je disais, il y a cette rupture diplomatique avec les États-Unis, mais c'est de là aussi où va venir un problème, j'allais dire, pour Alger, parce que c'est un moment où Alger va se mettre à accueillir ces Afro-Américains qui luttent pour les droits civiques, notamment Eldridge Cleaver, qu'on voit beaucoup dans le documentaire. Qui vient avec l'ambition de créer une armée de libération du peuple afro-américain, mais cette idylle entre ces mouvements et Alger va tourner court avec un épisode notamment avec des pirates afro-américains qui ont volé l'argent de compagnies aériennes et qui va là provoquer une rupture entre ces mouvements et Alger. Vous nous le racontez en quelques mots. C'est une séquence très importante qui va changer peut-être la nature de l'activisme algérien sur la scène internationale.
Oui, alors n'oublions pas qu'à l'époque, le ministre des Affaires étrangères, qui représente entre guillemets ce qu'on appelait à l'époque cette diplomatie des maquisards, c'était Abdelaziz Bouteflika, qui va prononcer un grand discours tiers-mondiste à l'Assemblée générale de l'ONU en 1974. Mais effectivement, vous avez raison de le souligner, il va y avoir une rupture entre ces mouvements radicaux, révolutionnaires, tiers-mondistes et le pouvoir algérien, qui veut retrouver quelque part sa place sur la scène internationale et désavouer, et voire même expulser certains de ces groupes, en particulier, je pense pas simplement aux Africains, mais aussi à des Brésiliens qui s'étaient installés à Alger à cette époque-là. Et cette dynamique politique tiers-mondiste au plan diplomatique va trouver, disons, ses limites au milieu des années 70, et l'Algérie va essayer, notamment après le détournement de l'avion organisé par Carlos, on voit sur le tarmac Abdelaziz Bouteflika qui accueille cet avion, on peut dire qu'à ce moment-là, c'est la fin, parce que l'Algérie veut aussi essayer de retrouver une place dans le concert des nations de manière tout à fait classique, de manière tout à fait traditionnelle. Donc en fait, Alger, mec des révolutionnaires, ça va durer à peu près une dizaine d'années, et même Eldridge Cleaver sera expulsé d'Algérie, et on connaît son parcours ensuite, il va se retrouver avec des néoconservateurs américains.
Alors figurez-vous que j'ai en plateau ici Slimane Zeghidour, vous l'avez croisé, vous justement, Cleaver, ces années-là, vous les avez connus à Alger?
Oui, parce que moi j'ai commencé à travailler dans un journal de bande dessinée qui s'appelait Mkidesh, 69-70, et effectivement, Eldridge Cleaver habitait à El Bihar, et plusieurs fois je l'ai vu, j'ai vu Myriam Makeba, pendant le festival panafricain j'ai vu Archie Chip qui jouait avec des musiciens algériens, et j'avais croisé à l'époque, sans me rendre compte, j'avais 17 ans, sans me rendre compte de l'enjeu que cela représentait, j'avais croisé des Brésiliens comme Miguel Arraes, qui était le chef de l'opposition brésilienne. Il y avait des Chiliens, les représentants du mouvement de libération du Timor oriental, du Mozambique, de l'Angola.
Et je crois que c'est, Benjamin Stora,
selon moi, cet accueil par l'Algérie de tous les mouvements révolutionnaires est un héritage de la période de Ben Bella, que Boumediene était obligé d'assumer, mais pour lequel il n'était pas très convaincu. J'ai revu au Brésil des Brésiliens qui étaient exilés à Alger, et dont certains ont écrit de véritables récits de leur séjour en Algérie. Ils racontent toutes les petites avanies et les restrictions qu'ils avaient de la part des autorités algériennes. Tout à l'heure, Benjamin Stora a rappelé, à juste titre, que certains de ces pirates, notamment des Black Panthers, qui venaient en Algérie après avoir pris de l'argent, les Algériens restituaient l'argent aux États-Unis, et au fond, Boumediene n'a jamais, au fond de lui-même, n'a jamais voulu rompre avec les Américains. Il est même arrivé qu'à un moment donné, les Vietnamiens avaient demandé un contingent symbolique d'Algériens au Vietnam, et les Algériens avaient refusé. Et effectivement, à partir des années 70, à cause des restrictions qu'ils avaient, beaucoup de ces exilés sont repartis.
Hassani Abidi, vous vouliez réagir et je vous redonne la parole, Benjamin Stora. Hassani Abidi.
Non, mais je voulais juste vous dire que finalement, les Libyens ont repris la même chose. Kadhafi s'est beaucoup inspiré de l'expérience algérienne, d'ailleurs, beaucoup de mouvements de libération. Il a même créé du nouveau mouvement qui n'existait pas auparavant. Je rappelle par exemple que l'Irak, qui était invité à plusieurs fois à Tripoli par le colonel Kadhafi, qui se revendiquait justement de l'héritage de Muammar Kadhafi, de Ben Bella. Il a fondé même un prix pour le prix des droits de l'homme au nom du président Ben Bella.
Benjamin Stora, vous vouliez peut-être réagir et puis je voudrais vous demander ce qu'il reste justement de cet héritage aujourd'hui, de cette période où Alger était la Mecque des révolutionnaires. Benjamin Stora.
Non, simplement en un mot, effectivement, je pense que Slimane Zerenou a raison. C'était un héritage de l'effervescence de la période Ben Bella, des années 62-65. Ça, c'est certain. Et puis, Boumdiène a été obligé de porter, entre guillemets, cette politique avec le sommet qui a été le Festival panafricain âgé de 1969. Et puis ensuite, ça va décliner progressivement et certains de ses militants seront même expulsés, hein, tout simplement, d'Algérie. Qu'est-ce qui reste de cette période? D'abord, dans l'imaginaire algérien, le prestige, hein, de cette période, le souvenir embelli, bien sûr, et reconstruit, hein, de cette période où l'Algérie pouvait jouer un rôle important sur la scène internationale. Et puis sa voix portée, hein, comme on, je l'ai dit tout à l'heure, cette fameuse diplomatie des maquisards, ça reste présent. Le documentaire que nous avions fait avec Ben Salama sur Alger, mec des révolutionnaires, était très très bien accueilli par la population algérienne, puisqu'il a été vu, je dis pas diffusé, mais vu en Algérie par l'intermédiaire de la chaîne Arte. Et il y a eu, vous voyez, beaucoup beaucoup de réactions, de souvenirs nostalgiques, mélancoliques autour de cette grande période, etc. Mais en fait, fondamentalement, disons, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste plutôt un souvenir qu'une pensée active, car l'Algérie, après toutes les épreuves, comme on sait qu'elle a traversé, a intérêt à retrouver sa place, une place nouvelle dans le concert des nations, et qui tienne pas simplement compte de ce passé glorieux, mais de trouver une place originale dans les défis très compliqués du futur d'aujourd'hui. Ça, c'est et rester prisonnier quelque part de ce passé peut lui interdire, disons, de trouver cette place aujourd'hui, notamment sur le continent africain.
Slimane Zeghidour, peu de chance quand même que l'Algérie reste prisonnière de ce passé-là, sachant que la moitié de la population algérienne aujourd'hui a moins de 20 ans et n'a évidemment pas connu cette période-là.
Oui, je crois que jusqu'à la sortie de ce documentaire, cette période a été complètement oubliée. Il faut dire que l'Algérie a vécu d'autres drames et d'autres épreuves.
Pourtant, il y en a encore des traces physiques.
Ça reste très peu connu. Grosso modo, ça reste très peu connu.
Il y en a encore des traces physiques. À Alger, il y a bien une rue Patrice Lumumba.
Oui, oui, oui. Il y a une rue Patrice Lumumba. Il y a
Che Guevara.
Il y a Che Guevara, le boulevard Che Guevara, qui est l'ancien boulevard de l'impératrice.
Alors, c'est là.
Mais moi, par exemple, je n'ai appris que récemment au Brésil que Carlos Marighella, le chef de la guérilla urbaine brésilienne, qui a écrit un livre, un traité qui s'appelle Manuel du Guerriero, avait caché son trésor de guerre à l'ambassade d'Algérie à Brasilia. Mais les Algériens, l'État algérien ne raconte pas ces histoires, les archives ne sont pas ouvertes. Et j'ai appris beaucoup plus au Brésil une partie de la politique algérienne en Amérique latine que plutôt par des sources algériennes.
Mindaha el leil fil janou min zafir el ard wal qulub min el janou إلا شعوب الإفريقية وبنت الحرية في خمسة جويلية إلا شعب الثورة المجيد المظفر إلا أبناء نوفمبر تحيتي تحية إفريقيا إفريقيا
Vous avez reconnu Slimane Zeghidour, évidemment.
Et comment, Myriam Makeba, oui.
Évidemment,
qui rend hommage à l'Algérie au 5 juillet, date de l'indépendance algérienne.
Qui chante en arabe.
Myriam Makeba, j'ai un très vif souvenir d'elle avec son mari américain des Black Power, compagnon de Ridge Cleaver, qui s'appelait Stockley Carmichael.
Eh bien, j'en profite justement pour dire que certains de vos souvenirs sont dans votre ouvrage « Sors la route, t'attends, c'était paru aux arènes ». Mais un grand merci à vous, Asni Abidi, d'avoir été avec nous. Également, Benjamin Stora qui est avec nous à l'instant par téléphone. Je rappelle le titre du documentaire dont on a parlé, « Alger, la Mecque des révolutionnaires ». Un grand merci à vous trois. 11h53, minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Que sait-on au juste de la Russie aux États-Unis? Voilà la question que vous posez ce matin.
Ben, les Américains le confessent, ils ne comprennent rien à la Russie. Il y a 30 ans, toute bonne université avait son département d'études slaves et les thèses de soviétologie étaient financées par le département d'État ou bien par la CIA. Mais la fin de la guerre froide a mis un terme à cette curiosité et à cette soif de savoir. Et à présent, la Russie agace les Américains et ils s'en désintéressent. Les russophones sont devenus aussi rares en Amérique du Nord que la loutre de mer et autres espèces en voie de disparition. C'est pourquoi le livre que vient de publier Joshua Yaffa, Between Two Fires, donne lieu à des recensions enthousiastes. Depuis 2013, en effet, ce journaliste couvre l'actualité russe pour le New Yorker. Et dans la revue Foreign Affairs de février, Michael Kimmage écrit que la façon dont Yaffa travaille en profondeur ces sujets lui permet de replacer les choses dans leur contexte, révélant ainsi les schémas historiques et sociologiques profonds qui étayent ce pays notoirement plein de contradictions. Fin de citation. Alors pour coller à son sujet, Yaffa a procédé par une accumulation de portraits de Russes d'aujourd'hui, toutes générations confondues. Et sa première observation est d'importance. Non, décidément, les Russes ne sont pas comme nous autres Américains. Sous prétexte qu'ils se sont mis à boire du Coca-Cola il y a 30 ans, nous n'avons jamais cessé d'attendre qu'ils commencent enfin à nous ressembler et à nous suivre. Eh bien, cela n'arrivera jamais, car la trajectoire russe est non occidentale. S'en persuader évitera de nouvelles désillusions. L'aspiration politique dominante des Russes, c'est l'autonomie, la souveraineté nationale, et cela explique d'ailleurs pourquoi la majorité d'entre eux a suivi Boris Yeltsin et non pas Mikhail Gorbatchev en 1991. Il n'y avait pas que les Baltes, les Ukrainiens ou les Géorgiens pour vouloir se débarrasser de l'Union soviétique, non, les Russes aussi voulaient un pays rien qu'à eux. L'empire multiethnique d'Union soviétique que Gorbi s'acharnait à vouloir sauver, leur était devenu un fardeau. Pour Yaffa, l'histoire russe depuis la dissolution de cette Union soviétique s'est déroulée en trois actes. Et ces trois strates d'expérience politique accumulées expliquent l'état moral de la société. Dans les années 80 et 90, grâce à la perestroïka et à ses suites, la Russie a fait l'apprentissage d'une liberté jusqu'alors inconnue. Mais le pays dérivait entre un passé soviétique plein de souvenirs et d'habitudes de vie et un avenir russe encore indéterminé, d'où l'aspect chaotique de cette période de transition. Et elle a laissé de très mauvais souvenirs en Russie.
Et Brice, le deuxième acte commence avec l'an 2000, lorsque Poutine est désigné par Yeltsin pour lui succéder.
La Russie eut alors le sentiment de sortir du chaos et des privations. Poutine offrait d'une main la prospérité, de l'autre la répression. Ce n'était pas la dictature non plus, mais une manière de contenir la liberté dans les marges, là où elle ne risquait pas de gêner la mainmise du pouvoir sur le pays. La Russie soufflait, elle connaissait la stabilité, l'avenir redevenait prévisible. Le troisième acte, eh ben nous y sommes. Les choses ont commencé à paraître plus fragiles. Les inégalités explosent. La classe moyenne est sous pression. Et Poutine vieillit, malgré les liftings. La société russe hésite entre sérénité, puisque la Russie est stable et ne dépend de personne, et l'exaspération. Le régime est ultra corrompu. Eh bien, celui de ces deux sentiments qui l'emportera donnera le ton du prochain acte. Poutine écrit « Joshua Yaffa est moins le ravisseur du pays qu'une manifestation de son inconscient collectif. Or, ce qu'il y a dorénavant dans l'éthos russe, c'est ce qu'il appelle, d'un mot anglais intraduisible, la « wiliness », l'ingéniosité, si vous voulez, la roubardise, l'art d'user de subterfuges pour se débrouiller. Leurs expériences historiques extrêmes, puis le règne de Poutine, ont appris aux Russes à s'ajuster aux contraintes avec opportunisme. Ce n'est ni le cruel apprentissage de l'arbitraire totalitaire, ni la mémoire de l'héroïsme des dissidents qui structurent le paysage. La plupart des Russes ne sont ni du côté de Staline, ni de celui de Solzhenitsyn, écrit Yaffa. Ils veulent pouvoir mener leurs affaires privées, se débrouiller. Tant que Poutine leur en laisse l'opportunité, ben, ils le laisseront monopoliser le pouvoir et puis s'enrichir, lui et ses amis oligarques. Mais Poutine n'est pas le personnage principal du livre de Joshua Yaffa. Ce qui l'intéresse, ce sont ces Russes dont il dresse le portrait. Comme par exemple ce créateur sibérien d'un musée du Goulag. Il est parvenu à ouvrir son musée en 1996 et plusieurs expositions émouvantes ont pu y avoir lieu. Puis, en 2014, l'État a pris le contrôle du musée, en a exclu les fondateurs et le musée du Goulag a été transformé en musée de la Grande Guerre patriotique. Une transition emblématique. Dans la Russie de Poutine, les institutions émanant de la société civile ont vocation à être absorbées par le régime, sinon elles cessent d'exister.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Raphaël Bourgois et la Grande Table.